Je vous invite à écouter la lecture de la Bible. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 6, ces paroles attribuées à Moïse. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Et puis toujours dans l'Ancien Testament, au livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Enfin, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40, ce récit que l'on trouve aussi dans l'Évangile de Marc et dans l'Évangile de Luc. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, ils se réunirent. Les pharisiens, les sadducéens, ce sont des partis religieux et théologiques du temps de Jésus. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut tendre un piège à Jésus et lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Et dans l'évangile de Marc, où nous avons le même récit, le maître de la loi qui a interrogé Jésus ajoute, « Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique 249, toutes les strophes 1, 2 et 3 du cantique numéro 249.
Thank you.
Éternel, depuis que tu nous cherches, tu viens à nous. Tu viens vers nous par les créations matérielles, les splendeurs, la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la famille, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous. À travers nos jours éphémères, a transparu ton sourire qui demeure. Et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage ou fermente, un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs, tombés pour les causes justes, brillent des rayons d'or. Dans chaque regard d'enfant, tu as mis ta promesse et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Éternel, toi qui te fais homme pour être plus près de nous, comme les épis mûris sous tes caresses, ton soleil se fait pain afin de nous nourrir. Sois béni. Amen.
Thank you.
Chers frères, chers amis, depuis quelques années, un conseiller presbytéral m'interpellait afin que je consacre une prédication à la question suivante, qui était la sienne et qui va devenir la nôtre. Le Dieu des philosophes est-il le même que celui des simples croyants? Alors, la prédication de ce jour va essayer de répondre à cette interrogation, mais en la plaçant dans un cadre à la fois plus large et plus classique, à savoir le débat foi et raison. J'entends la raison ici dans un sens tout à fait basique, de réflexion, d'intelligence. Et foi et raison, cela signifie théologie et philosophie, bien sûr. Et je placerai l'ensemble de cette prédication sous l'égide de ce commandement que nous relisions tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, mais qu'on trouve aussi dans celui de Luc et de Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc pour aujourd'hui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Vous avez remarqué donc qu'au moment des lectures bibliques, ce commandement se trouve en fait dans le livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome. Mais chose assez surprenante, les deux versions entre l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas les mêmes. À savoir que dans le livre du Deutéronome, il n'est pas dit d'aimer Dieu de toute sa pensée, mais de toute sa force. Donc, cette volonté d'aimer Dieu de toute notre pensée est inscrite au cœur du Nouveau Testament et appartient à une parole de Jésus lui-même. Le philosophe au XVIIe siècle, Blaise Pascal, écrit de Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et non pas Dieu des philosophes et des savants, Dieu de Jésus-Christ. Ces mots se trouvent dans son fameux mémorial rédigé après une conversion intérieure, une sorte d'illumination où il fait l'expérience d'un Dieu éprouvé au cœur de son cœur, au plus profond de lui-même. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher dans ces mots qui traduisent une expérience vibrante l'annonce d'un système théologique opposant la philosophie et la théologie. Au contraire, le fameux ouvrage de Blaise Pascal, Les Pensées, qui sont un génial brouillon, puisque ce livre n'a jamais pu être achevé, ce livre voulait être une apologie du christianisme, une défense du christianisme qui articule précisément la foi et la raison dans une complémentarité. Or, beaucoup trop de chrétiens ont utilisé ces paroles de Pascal, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, et non pas des savants et des philosophes, pour justifier et pour excuser une paresse intellectuelle. N'ignorons ni les exigences de la raison, ni celles de la foi et leur fondement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Les preuves de l'existence de Dieu. Je ne vais pas les rappeler ici, il y faudrait toute une prédication, sont intéressantes au moins par leur démarche. La recherche de preuves de l'existence de Dieu. Elle exprime, cette preuve et ces preuves, elles expriment une quête. Leur démarche, en effet, se veut très positive, même si, à mon avis, ces preuves n'ont jamais converti personne, ou n'ont converti que ceux qui l'étaient déjà. Mais elle nous montre que la raison, la réflexion, l'intelligence, la pensée n'ont pas à se faire harakiri quand il est question de foi et de la foi en Dieu. Ces preuves nous montrent au moins qu'il n'est pas absurde de croire en Dieu, qu'il y a des raisons et même de bonnes raisons de croire en lui. Certes, aujourd'hui, nous cherchons moins que naguère peut-être à prouver Dieu, mais nous voulons dire un Dieu crédible. La pensée n'a pas à être abandonnée au profit d'une foi aveugle quand il est question de foi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. J'aime ce titre d'un livre du professeur et théologien André Gounel, autrefois professeur de théologie à la faculté protestante de Montpellier. Ce livre s'intitulait « Penser la foi ». Et je me rappelle l'exemple d'Albert Schweitzer qui raconte dans ses mémoires qu'alors qu'il était catéchumène, alors qu'il faisait son catéchisme, le pasteur avait dit à cette année de catéchisme que toute raison, que tout raisonnement devait être sacrifié quand il est question de foi et de foi en Dieu. Or, le jeune catéchumène qui était Albert Schweitzer était très choqué et même scandalisé par cette affirmation parce qu'il estimait que la pensée, que la réflexion, que la raison étaient elles aussi un don de Dieu. Et Schweitzer écrit « Dès ma jeunesse, j'ai eu la conviction que toute vérité religieuse doit, en dernière analyse, s'imposer également à l'esprit comme une vérité nécessaire. » Alors j'aimerais dire, pour conclure cette première étape, quelques mots de ce qu'on appelle la théologie naturelle. Cette théologie estime que l'être humain peut accéder partiellement, il est vrai, à Dieu par lui-même, sans passer par une révélation en tant que telle. Il peut accéder à Dieu par sa raison, nous venons d'en dire quelques mots, par un sentiment, le sentiment religieux qui vibre en nous, en contemplant la création et sa beauté. Et malheureusement, toute une théologie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle s'est opposée à cette idée d'une théologie naturelle, disant même que c'était là par excellence le péché de l'être humain et que la foi devait être toute nue et seulement une foi dans la révélation. Pas de raison, pas de sentiment religieux, pas de beauté du monde nous permettant d'accéder à Dieu. Il me semble qu'il y a là une position tout à fait excessive. D'ailleurs, Calvin lui-même, le réformateur du XVIe siècle, écrit dans son ouvrage monumental, emblématique, « L'institution de la religion chrétienne », il écrit cela tout au début de ce livre, c'est dire l'importance qu'il accorde à ces mots. « Nous mettons hors de doute que les hommes aient en eux un sentiment de divinité, même d'un mouvement naturel. » Certes, ce Dieu auquel nous accédons par nous-mêmes n'est pas exactement le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la crèche, le Dieu d'une croix, c'est toujours un Dieu très inattendu. Mais il y a en nous un sentiment religieux et je dirais que, pour le moins, l'homme porte en lui la question de Dieu. Jean-Paul Sartre, tout à fait athée, disait même que c'est pour lui le propre de l'être humain. Il porte en lui la question de Dieu. Dans sa prière, le psalmiste, c'est au psaume 27, déclare à Dieu, « mon cœur dit de ta part, mon cœur, cherchez ma face. Et Augustin, saint Augustin, au 4e et au 5e siècle, écrit de Dieu « Deus intimor intimo memo ». Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Voyez-vous, je pense qu'il est juste de suivre ces théologiens qui disent qu'il y a en nous une pré-compréhension de Dieu. Un athée sait très bien de quoi on lui parle quand on lui parle de Dieu. Il y a en nous une pré-compréhension de Dieu. Alors, dans une deuxième étape, j'aimerais parler de cette méthode historico-critique de lecture de la Bible, de cette méthode exégétique, parce qu'elle s'inscrit précisément dans le débat foi et raison. Cette méthode est une méthode rationnelle d'exégèse. Elle est issue plus particulièrement du protestantisme libéral allemand au XIXe siècle. Elle est reprise très généralement dans les cadres de notre Église protestante unie de France. Elle est enseignée et pratiquée dans les facultés de théologie de Paris, de Montpellier et bien entendu aussi de Strasbourg. Que dit cette méthode? Elle dit qu'il faut essayer de retrouver le sens, l'état premier du texte biblique qui a connu plusieurs versions, qui a connu des changements, des modifications et toute une évolution avant d'arriver à nous. Il s'agit de trouver, si possible, l'événement qui sous-tend ce texte biblique. C'est donc une enquête historique, scientifique, de critique littéraire appliquée à la Bible comme à n'importe quel autre livre de la littérature, mais le but que se fixe cette méthode est très difficile à atteindre. Par exemple, Jésus a-t-il vraiment dit et fait tout ce qu'on nous dit qu'il a dit et fait d'après les évangiles? A-t-il matériellement, physiquement, corporellement, marcher sur les eaux? Ou, un autre exemple, les récits de la création aux deux premiers chapitres de la Genèse. Ils sont d'ailleurs deux récits. Alors, lequel est vrai? Le premier ou le second? Les récits de la création n'ont pas un but historique. Ils sont des grands poèmes symboliques, des épopées très profondes. D'autre part, l'univers en trois étages, qui est unanimement celui de la Bible. Dieu au ciel avec les anges, la terre et les enfers au-dessous de la terre. Cet univers en trois étages ne peut plus être le nôtre. Et ici même, le dimanche qui suivait le jeudi de l'Ascension, j'ai dit que pour nous, on ne pouvait plus affirmer que Jésus était monté au ciel comme une fusée. Or, c'est bien ce que nous dit le texte biblique. Alors, on va me rétorquer, certains en tout cas, qu'en disant ce que je dis, en affirmant cela, je fais une œuvre de sape, de destruction rationaliste de la foi. Or, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que la méthode historico-critique, dans ce sens-là, correspond à une exigence de la foi elle-même. Et que par conséquent, à travers la raison, elle veut sauvegarder la foi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ne pas confondre l'évangile, au singulier l'évangile, avec le moule dans lequel il est coulé. Une conception du monde qui n'est plus du tout la nôtre, qui était la conception scientifique et culturelle de l'époque. Alors maintenant, les exigences de cette méthode, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, Mais l'essentiel ne doit pas être pour nous l'événement historique ou non, qui se trouve derrière, en dessous des textes bibliques, mais quand nous lisons ces textes, quel est leur sens? Quelle est leur signification? Quelle est leur interpellation pour nous aujourd'hui dans l'ordre de la foi? Entendons-nous, par exemple, une parole de Dieu à travers des textes si lourdement ou merveilleusement humains? On passe ainsi d'une démarche rationnelle légitime à une démarche relationnelle qui est celle de la foi. Nous disons oui ou nous disons non au sens et aux significations de ces textes qui nous interpellent. Alors vous voyez, la méthode historico-critique nous dit qu'il faut replacer les textes dans leurs différents contextes, et souvent quand ils nous choquent, on les comprend beaucoup mieux quand on les replace dans leurs contextes qui ne sont plus les nôtres. Ces textes ont évolué. Et les notions qu'ils contiennent ont évolué à l'intérieur même de la Bible. Le Dieu de Jésus, un Dieu d'amour, nous dit la première épître de Jean à deux reprises. Est-il compatible avec des représentations qui nous paraissent archaïques, dépassées, anthropomorphiques de Dieu, telles qu'on les trouve très souvent dans la Bible? C'est Voltaire qui écrivait au XVIIIe siècle, « Dieu créa l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. » Ce Dieu vengeur, ce Dieu cruel, ce Dieu sanguinaire qui veut que le sang coule sur la croix pour pardonner aux hommes. Je me rappelle le pasteur Marshall ici même qui disait « Ce Dieu n'est même pas à la hauteur d'un honnête homme. » Ce Dieu-là est-il ce Dieu d'amour? De quel Dieu parle-t-on? Le Dieu des philosophes n'est-il pas très souvent, d'ailleurs, pour revenir à la question posée, beaucoup plus évangélique que le Dieu de tant de religions et même de tant d'aspects nocifs du christianisme? Certes, ce Dieu des philosophes est très conceptuel, très abstrait, un peu glacé, le Dieu de la pensée, mais souvent il est bien plus évangélique que le Dieu des religions et même de tant d'aspects du christianisme, ce Dieu qui organise les combats, les tueries de l'Ancien Testament, qui veut les sacrifices, ce Dieu vengeur et sanguinaire. Cette image-là de Dieu fait fuir de nos temples, de nos églises, tant d'hommes et de femmes qui ne demanderaient pas mieux que d'y être. Et j'ai souvent dit, et je le maintiens, que devant cette image de Dieu, si on me l'imposait, je préférerais à cela un humanisme sereinement athée. Alors, troisième et dernière étape, j'aimerais procéder à deux dépassements. Des dépassements de la raison, de la pensée, non pas par la foi, mais c'est tout à fait différent, vers la foi. D'abord, vous avez compris qu'il me semble vain de vouloir opposer la foi et la raison, et que je préfère parler ici d'un dépassement. Le philosophe Kant, protestant, au XVIIIe siècle, dans la deuxième préface qu'il donne à son livre « La critique de la raison pure » en 1787, écrit ceci « J'ai dû dépasser le savoir pour lui substituer le croire. L'irrationnel n'est pas contre le rationnel le postule, y conduit, y aboutit. » Il y a un dépassement dans un cheminement qui reconnaît tout à coup quelque chose qui nous dépasse. C'est la raison elle-même qui postule ses limites. C'est la pensée qui opère cette démarche. Il ne s'agit pas du tout d'une négation au profit d'une foi aveugle. La foi et le mysticisme ne sont pas une capitulation de la pensée, mais son accomplissement, son épanouissement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Et Albert Schweitzer, que je citais tout à l'heure, précise encore, dès ma jeunesse, j'ai eu la conviction que toute réflexion qui va jusqu'au bout de ses conclusions finit en mysticisme. J'ai lu récemment un livre très difficile pour nous occidentaux et qui appartient à la littérature mondiale et plus particulièrement à, comme trésor à la religion de l'Inde, la Bhagavad Gita. Eh bien, l'introducteur de cet ouvrage, dans l'édition que j'avais sous les yeux, écrit « L'expérience mystique utilise la raison, la logique et le bon sens jusqu'où ils peuvent aller et ensuite les dépasse. » Alors, deuxième dépassement, là je cite un autre penseur protestant allemand, c'est un historien des origines du christianisme, Adolf Harnack, H-A-R-N-A-C-K, Harnack, Adolf von Harnack, dit-on souvent, parce qu'il était anobli par l'empereur. En 1900, Harnack publie un livre qui a fait le tour du monde, qui a eu un succès retentissant, inattendu, incroyable, l'essence du christianisme. Bien sûr, pour lui, l'essence du christianisme est à trouver dans l'Évangile. Mais, d'après lui, les premiers siècles du christianisme, les premiers penseurs du christianisme, les premiers théologiens chrétiens, toute une génération de pères de l'Église, comme on les appelle, a substitué des doctrines, des dogmatiques, à la dimension morale, pratique, éthique des évangiles. Bien sûr, ces doctrines peuvent être importantes, mais il ne faut pas qu'elles remplacent le message existentiel de l'évangile. Et vous connaissez, d'après l'évangile de Jean, cette parole de Jésus, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est à l'amour de Jésus et non pas à des doctrines ou à des rites ou à des églises. Et sur ce point, il me semble qu'un protestantisme libéral qui insiste tellement sur la pratique évangélique, on dit les pratiquants très souvent dans la littérature, dans les journaux ou les sociologues, mais les pratiquants ne sont pas du tout ceux qui vont au culte, même si c'est très bien de venir au culte. Je suis heureux d'y voir notre ami Hubac aujourd'hui, dans notre culte. Les pratiquants sont ceux qui mettent l'évangile en pratique. Alors il y a un lien entre cette perspective d'un protestantisme libéral et d'un christianisme social, qui lui aussi dit que l'essentiel c'est la pratique d'un christianisme dans les cadres de notre société. Alors, ce sera ma conclusion, si la raison postule son propre dépassement à travers la foi, il y a donc un autre dépassement, celui des doctrines, celui des dogmes, celui de la pensée, vers une pratique existentielle de l'Évangile, seule véritablement centrale d'après lui. Nous avons deux commandements, on le sait bien, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces deux commandements, vous l'avez entendu tout à l'heure, sont séparés dans l'Ancien Testament. L'amour de Dieu, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, le verset 5, et l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et au verset 18. Eh bien, il est très beau que dans le Nouveau Testament, ces deux commandements, à travers l'Évangile, à travers les paroles de Jésus, n'en fassent qu'un, sont toujours réunis dans le sommaire de la loi qui nous invite à aimer Dieu de toute notre pensée, de tout notre cœur, mais qui nous invite en même temps, dans un commandement dont le texte nous dit qu'il est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen.